VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, au sommaire de cette édition du 25 juin 2018. Au Nigeria, 86 personnes ont été tuées dans une attaque présumée d'éleveurs visant des fermiers ce week-end. Le Rwanda a expulsé depuis samedi plus de 250 Burundais. Jean-Pierre Bemba, acquitté par la Cour pénale internationale, peut demander un passeport diplomatique pour rentrer en RDC, selon Kinshasa. L'islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan a été réélu après 15 années au pouvoir en Turquie. Coupe du Monde, les matchs du groupe B en cours, Maroc-Espagne, un partout pour l'instant. Et le Portugal joue contre l'Iran également en ce moment. Au Nigeria, 86 personnes ont été tuées dans une attaque présumée d'éleveurs visant des fermiers dans le centre du pays. Des détails avec Raissa Girondin.
Selon les autorités locales, 86 personnes ont été tuées dans la région de Barikin-Ladi dans des violences intercommunautaires. Le président nigérian, Muhammadu Buhari, a lancé un appel au calme et le gouverneur de l'état du plateau a annoncé le lancement d'opérations pour arrêter ces auteurs. 6 personnes ont été blessées dans ces attaques et 50 maisons incendiées, a ajouté le commissaire de police Ndie Adie. Un couvre-feu a été décrété dans plusieurs régions touchées par ces affrontements entre éleveurs et fermiers. Le président Buhari, un Fulani, est parfois accusé de ne pas agir suffisamment contre l'insécurité pour traduire les criminels en justice et prévenir de nouvelles attaques. Ces violences récurrentes dans le centre du Nigeria ont fait des milliers de morts au cours des dernières décennies.
À 6 mois des élections en RDC, l'opposant Jean-Pierre Bemba peut demander un passeport diplomatique pour rentrer dans son pays. C'est ce que fait savoir le ministre des Affaires étrangères après son acquittement par la Cour pénale internationale, Morgan Guériec.
Je vous serais gré de bien vouloir demander à l'honorable sénateur Jean-Pierre Bemba de dépêcher son agent du protocole pour retirer un formulaire de demande de passeport diplomatique auprès de notre ambassade à Bruxelles, a écrit Léonard chez Okitunde en répondant à une demande formulée par le président du Sénat congolais, Léon Kengo Wadondo. Ancien vice-président et candidat à l'élection présidentielle de 2006, Monsieur Bemba a quitté son pays en 2007 après son inculpation par la Cour pénale internationale pour des actions perpétrées par sa milice en Centrafrique. Il avait été condamné à 18 ans de prison en première instance, mais a été acquitté en appel. Les 12 et 13 juillet, le MLC, parti de M. Bemba, tiendra son congrès à Kinshasa pour désigner son candidat à l'élection présidentielle du 23 décembre.
Le Rwanda a expulsé depuis samedi plus de 250 Burundais. Des détails avec notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Les relations entre le Rwanda et le Burundi restent toujours tendues entre les deux pays frères qui ont les mêmes composantes sociales ou tout aussi étroites. Depuis samedi dernier, plus de 250 Burundais ont déjà été expulsés selon l'administration de la province de Kirundo au nord du Burundi en attendant d'être acheminés vers leur province d'origine. D'après l'administrateur de la commune de Nega, ces Burundais sont accusés d'avoir refusé d'être installés dans le camp des réfugiés burundais de Mahama au Rwanda. Ils sont également soupçonnés par les autorités rwandaises, d'après l'administrateur Philippe Ngabonziza, d'être de mèche avec les malfaiteurs qui déstabilisent de temps à autre la quiétude des habitants du Rwanda. Plus de 60 Burundais sont arrivés ce lundi et 180 autres avaient été refoulés samedi et dimanche dernier. Nombreux sont les Burundais qui ont déjà regagné leur colline dans la commune de Nega. D'après toujours l'administrateur Ngabonziza, les Burundaises mariées à des Rwandais sont restées au Rwanda tandis que les Burundais mariées à des Rwandaises ont été expulsés manu militari vers le pays des mille et une collines. Vendredi dernier, sur la radio-télévision nationale du Burundi, le porte-parole du gouvernement avait indiqué que le Burundi est prêt et à soutenir la candidature de la ministre des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo, comme futur secrétaire général de l'EIF, à l'unique condition que les autorités rwandaises demandent pardon. Rappelons que depuis 2015, les relations entre les deux pays ne sont pas au beau fixe. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Il n'y a plus aucun obstacle aux premières enquêtes de la Cour pénale internationale, la Cour pénale spéciale, pardon, sur les crimes en Centrafrique qui devrait débuter cette année, a annoncé le procureur spécial Toussaint Muntazini. Le président Faustin Archange Touadéra doit signer le décret portant création du règlement et celui sur l'organisation de l'unité spéciale de police judiciaire. Un protocole d'entente avec la CPI devrait bientôt être signé pour éviter des doublons, selon le procureur, rappelant que le règlement de la CPS a été adopté par le Parlement et validé par la Cour constitutionnelle. L'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar a annoncé la fin des opérations militaires dans le croissant pétrolier désormais sous contrôle total de l'ANL. Le 14 juin, des groupes armés dirigés par Ibrahim Jadran ont attaqué les terminaux de Ras Lanouf et d'Al-Sedra, deux principaux sites dans le nord-est par lesquels le pétrole est acheminé vers l'étranger. Le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar ont exprimé ce lundi à Khartoum leur espoir de mettre un terme à la guerre civile. Il s'agit de la première rencontre entre les deux hommes dans la capitale soudanaise depuis le déclenchement du conflit. Ils se sont rencontrés en présence des présidents soudanais Omar el-Béchir et ougandais Yoweri Museveni. Les pourparlers suivent un sommet des États d'Afrique de l'Est qui s'est achevé sans percée, alors que l'ONU a donné jusqu'à fin juin aux belligérants pour arriver à un accord politique viable en brandissant la menace de sanctions. Ouverture en Zambie du procès de 6 militants anticorruption, dont le rappeur Pilato accusé d'avoir perturbé le débat budgétaire au Parlement pour dénoncer la corruption des autorités. Les accusés avaient été brièvement arrêtés pour avoir manifesté en septembre devant le Parlement pendant que le ministre des Finances présentait son projet de loi des finances. Les protestataires dénonçaient l'achat de 42 véhicules d'intervention pour les sapeurs-pompiers au prix $1 million chacun. À l'ouverture des débats, ils ont rejeté les charges de manifestation illégale. Le juge a fixé la prochaine audience au 10 août. Le FBI va aider les autorités éthiopiennes dans leur enquête sur l'attaque qui a fait 2 morts et 150 blessés samedi dans la foule venue écouter le Premier ministre selon la radio-télévision Fana. Un porte-parole de l'ambassade américaine a confirmé l'information. L'explosion a eu lieu alors que Kabi Ahmed achevait son discours à Addis Abeba. Le Premier ministre a quitté les lieux sains et saufs. 30 personnes ont été arrêtées ainsi que des responsables de la police.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a été réélu dès le premier tour pour un nouveau mandat de 5 ans lors de la présidentielle dimanche. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après l'agence de presse étatique Anadolu, le président Recep Tayyip Erdogan est arrivé en tête de la présidentielle avec 52,5% des voix après le dépouillement de plus de 99% des bulletins. Son principal concurrent, le social-démocrate Muharrem İnce, est arrivé en deuxième position avec 30,7%. Pour les législatives, l'alliance dominée par le parti au pouvoir mène avec un peu plus de 53%. L'alliance anti-Erdogan a récolté 34% d'après les résultats partiels. Le vainqueur de cette élection, c'est la démocratie, la volonté nationale, c'est chacun des 81 millions de nos concitoyens, a déclaré M. Erdogan. Plusieurs milliers de ses partisans se sont rassemblés dimanche soir aux abords de sa résidence à Istanbul, chantant et brandissant des drapeaux. Les détracteurs de M. Erdogan l'accusent de dérive autocratique depuis la tentative de putsch de juillet 2016, suivie de purges massives. Le passage du système parlementaire à un régime présidentiel fort concentre le pouvoir exécutif entre les mains du chef de l'État.
Le ministre américain de la Défense, Jim Mattis, effectue cette semaine sa première visite en Chine. Le chef du Pentagone a indiqué dimanche, lors de sa tournée de 4 jours en Asie, qu'il voulait prendre la mesure des ambitions stratégiques de la Chine ayant installé des systèmes d'armement sophistiqués sur des îlots artificiels en mer de Chine méridionale. À Pékin, il séjournera de mardi à jeudi. Monsieur Mattis rencontrera des hauts responsables du ministère de la Défense. Il se rendra ensuite à Séoul pour des discussions avec son homologue sud-coréen Song Yong-mu avant une étape vendredi à Tokyo pour rencontrer le ministre de la Défense japonais Itsunori Onodera. Et voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. À présent, le Mondial 2018 avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous. Le nouveau journal de la Coupe du Monde ce soir sur VO Afrique. La finale du groupe A entre la Russie et l'Uruguay a tourné à l'avantage de la Céleste qui s'est imposée 3-0 sur un but de Suarez et de Sheriff Chef contre son camp. Et en toute fin de match, Edinson Cavani qui conclut ce triomphe. Les Pharaons, eux, ont perdu lourdement. L'Uruguay termine première de ce groupe, la Russie deuxième et l'Égypte termine dernière derrière l'Arabie Saoudite puisque les Pharaons se sont inclinés. Ils avaient pourtant ouvert le score sur un joli lob de l'inévitable Mohamed Salah. Al-Farage a réduit le score en deuxième mi-temps pour les Saoudiens sur pénalty. Et dans les arrêts de jeu, les Saoudiens ont été récompensés de leurs efforts grâce à un but d'Al Dawsari. A noter ce nouveau record d'Essam El Haddari, titulaire dans les buts des Pharaons. Il est devenu le joueur le plus vieux de l'histoire à disputer une Coupe du Monde. 45 ans, 5 mois et 10 jours. Et les deux autres rencontres ce soir, alors qu'on s'approche de la mi-temps dans le groupe B, le duel à distance entre les Portugais et les Espagnols pour la première place du groupe. Les Portugais champions d'Europe en titre affrontent l'Iran, qui se qualifierait en cas de victoire face à Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers. 0-0 pour le moment. Et puis à Kaliningrad, le Maroc qui veut sortir avec les honneurs face à l'Espagne. Ce sont les Marocains qui ont ouvert le score grâce à Khalib Boutaïb suite à une erreur dans la défense espagnole. Mais Isco a égalisé pour les Espagnols pour le moment. Un partout entre les deux équipes. On parle à présent du Sénégal, déçu après son match nul hier de partout contre le Japon. Les Lions de la Teranga qui ont pourtant mené deux fois au score avant de se faire rejoindre par les Japonais. Ce lundi dans le groupe H, le Sénégal est premier ex-aequo avec le Japon. La Colombie est troisième avec 3 points après sa victoire 3-0 hier soir face à la Pologne qui est éliminée. La prochaine rencontre Sénégal-Colombie sera décisive. Les Sénégalais peuvent se qualifier pour les huitièmes de finale en cas de match nul ou de victoire. Pour cela, il faudra montrer un autre visage plus conquérant, comme le reconnaît le sélectionneur du Sénégal en conférence de presse. Après match, on écoute Aliou Cissé.
Forcément, il y a des regrets, mais force est de constater aussi qu'on n'a pas vu un grand Sénégal non plus. Mais malgré ça, malgré que ce n'est pas un grand Sénégal, je crois qu'on a mené deux fois dans cette rencontre-là. Et puis bon, ce qui me dérange un petit peu, c'est les buts qu'on a pris un petit peu dans cette rencontre-là. La meilleure équipe sur le terrain était quand même le Japon, il faut leur concéder ça. Moi, j'y crois, j'ai confiance, je crois que notre équipe a de la qualité.
À Dakar, les supporters réunis pour regarder le match de leur équipe y croient toujours. C'est l'objet du coup de sifflet de Jules Valentin Gouy. Voilà, pardon pour cette erreur. On a entendu Aliou Cissé, le sélectionneur du Sénégal. À suivre ce mardi la finale du groupe C entre la France et le Danemark. L'Australie face au Pérou, déjà éliminé. Dans le groupe D, la Croatie, déjà qualifiée, affronte l'Islande et le Nigeria pourrait éliminer l'Argentine en cas de match nul ou de victoire des Super Eagles. C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonsoir. Depuis 1990 et la Coupe du Monde en Italie, l'Argentine ne s'était jamais retrouvée dans une situation aussi inconfortable avant le dernier match de poule. Diego Maradona était alors à la baguette et l'équipe autour de lui paraissait aussi pâle que celle qui est en train de bafouiller son football sur les terrains de Russie. Déjà, il a fallu s'arracher pour récupérer la dernière place qualificative dans le groupe éliminatoire unique de la zone Amérique du Sud, où malgré la présence en son sein d'un joueur hors norme comme Lionel Messi, l'Argentine ne s'est qualifiée de justesse que lors de la dernière journée. Ce paradoxe argentin ne date pas d'aujourd'hui. En 1990, Diego Maradona a choisi de jouer tout seul, le reste de l'équipe s'occupant des tâches ingrates mais utiles. Résultat, une Coupe du Monde et une finale pour le pivot de Oro, entré à jamais dans la légende. Lionel Messi, si brillant dans le jeu aéré et en mouvement du FC Barcelone, Messi terne avec une sélection statique arrêtée sans répartition judicieuse des tâches. Le génie barcelonais, que certains proclamaient déjà meilleur joueur de l'histoire, se trouve donc face à un choix existentiel, devant une équipe du Nigeria qui ne lui fera pas de cadeau. À bientôt.
Merci Jules Valentin. Voilà, c'est tout pour ce journal de la Coupe du Monde. Prochain point sur le tournoi demain matin sur VOA Afrique. Vous retrouvez toutes les dernières infos sur voaafrique.com et notre page Facebook.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Tuerie au centre du Mali ce week-end. Au moins 35 civils peuls ont été tués samedi au cours d'une attaque attribuée à des chasseurs traditionnels à Koumaga. Begassi Koura joint Salaïna Bokoum, un habitant de Djéné, une ville proche du lieu de l'attaque.
Le matin, quand les gens s'apprêtaient même de faire sortir un peu le bétail pour les amener au pâturage.
Parce que c'est un village de l'éleveurs.
Voilà, c'est un village de l'éleveurs. Comme je l'ai si bien dit, c'est un village qui est constitué presque à 80-90% peuls. Donc les peuls sont majoritaires là-bas. Donc tout a commencé le matin. Ce sont les chasseurs, comme on appelle les dozos, qui ont pris l'assaut sur le village. Donc maintenant, à l'entrée du village, ils ont tiré sur toute personne qu'ils ont rencontrée sur le chemin. Donc maintenant, c'est arrivé au village maintenant, donc en ce qui concerne les trucs, les attaques, ce sont les peuls. Même si les peuls sont majoritaires, il y a ce qu'on appelle les bozos et les bambaras, mais ce sont les peuls qui ont été pris pour cible.
Dans le village, il n'y avait pas que des peuls.
Non, il n'y avait pas que des peuls. Il n'y avait pas de... Mais ce sont les peuls qui sont majoritaires. C'est un village où il y a les bambaras, il y a des bozos.
Est-ce qu'on savait s'il y avait des problèmes de cohabitation entre ces différentes communautés ethniques?
Bon, tout a commencé dans ces derniers mois. Sinon, avant, ce sont des communautés qui cohabitent ensemble, même si des fois, il y a des petites incompréhensions, par exemple, entre éleveurs et cultivateurs. Mais ce sont des incompréhensions qui avaient toujours été résolues dans l'amiable. Mais avec les tournures, compris les événements récemment, donc vraiment, on ne sait plus que faire. Parce que là, ce sont les peuples qui sont toujours pris pour cible. Parce que récemment, avec la tournée du chef de gouvernement, notamment le premier ministre, surtout, ils avaient quand même décidé quand même de procéder au désarmement des communautés. Mais depuis lors, la situation ne fait que s'empirer. Sinon, au lendemain même de la fête de Ramadan, vers Nantaga, à Mop, il y a eu des événements similaires comme ça. S'il faut que 10 jours après, Koumaga tout près aussi vient de tomber dans les mêmes les événements. Finalement, on ne sait plus vraiment quoi dire. Nous vivons dans le qui-vivre ici. Les peuples, quand on est peuple ici, vraiment, c'est très, très difficile.
Alors, est-ce qu'on sent un renfort de forces de sécurité dans la région depuis hier, par exemple?
Oui, parce que quand les événements sont passés dans les forces, comme je l'ai si bien dit, les informations qu'on doit faire savoir que les forces de sécurité sont venues pour s'interposer entre les différentes communautés. Mais le plus mal dans tout ça, là, donc, je suis dans le communiqué du gouvernement, on dit qu'il y a eu un accrochage entre les communautés du village. C'est pas comme ça. Ça dit, il faut appeler le chat par son nom. Ce sont les chasseurs qui sont venus agresser les peuples du village de Koumaga. Même si ces chasseurs-là ont des complices, mais ils ne viennent pas de Koumaga. C'est ça le problème, au fait. Dans le communiqué, on dit qu'il y a un accrochage entre les communautés du même village de Koumaga, alors que tel n'est pas le cas.
Salaïna Bokoum est un habitant de Djéné, au Mali.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
Le président du Burkina Faso a dressé hier son bilan de mi-mandat. Face aux journalistes, Roch Marc Christian Kabore est revenu sur les grandes questions, notamment les attaques terroristes et la fronde sociale, mais également sa candidature à la présidentielle de 2020. Notre correspondant à Ouagadougou, Lamine Traoré, nous en dit plus.
Le face-à-face entre le président du Faso et les journalistes a duré près de 2 heures. Tout ce qui fait l'actualité au Burkina a été abordé. En matière de lutte contre le terrorisme, le président Kabore a salué l'action des forces de défense et de sécurité burkinabais, qui, selon lui, sont en train de maîtriser la situation.
De mon point de vue, je suis satisfait de l'action de nos forces de défense et de sécurité qui montrent que nous sommes en montée en puissance. Tout est mis en œuvre pour que nous puissions le plus rapidement possible terminer avec, je dirais, le terrorisme, non pas à 100%, de manière à limiter la mobilité de ces forces négatives.
Au niveau des secteurs sociaux, le président Kabore, tout en reconnaissant que les hôpitaux du Burkina sont dans une situation difficile, a fait savoir que de nouveaux centres de santé vont être construits à Ouagadougou et le grand hôpital de la capitale, Yalgado Ouédraogo, sera réhabilité. Par ailleurs, le président du Faso a demandé aux syndicats du ministère de l'économie, en grève depuis des mois, de lever leur mot d'ordre de grève. Roch Kabore.
Je voudrais encore demander aux syndicats du ministère de l'économie et des finances de lever leur mot d'ordre de grève, de reprendre leurs services de manière à ce que nous puissions engager des discussions.
Dans les milieux de la majorité, la sortie du chef de l'État a été saluée. Laurence Ilboudou est la ministre de la Femme.
Aujourd'hui, il vient avec un nouveau visage et une nouvelle gestion. Et il a présenté très bien sa gestion qu'il veut de ce pays et qui va en droite ligne avec les aspirations de l'insurrection, l'équité, la justice sociale et la démocratie.
Pour Issouf Nana du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, le président est à féliciter.
Le président lui-même se prêtait à l'exercice de redevabilité. Nous ne pouvons que féliciter le chef de l'État, féliciter tous les membres du gouvernement de s'être prêté à cet exercice de redevabilité.
À Ouagadougou, les citoyens apprécient diversement cette sortie du président.
Je l'apprécie parce qu'il a été franc dans l'interview avec les journalistes. Il a répondu les questions comme il se doit sur le fonds commun.
On ne retient pas quelque chose de nouveau. Hein. Il a juste dit des choses. On sent qu'il avait des annonces à faire. Le président doit aller voir sa copie. Le peuple coule dans la misère. Hein. C'est la vraie misère dans les quartiers.
Un message qui n'est pas passé inaperçu. Le président Kabore a dit qu'il va travailler à mettre en œuvre son programme pour les 2 années qui lui restent. Afin de se présenter à la présidentielle de 2020, Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Des membres de la société civile en République du Congo dénoncent de multiples pressions dont ils feraient l'objet de la part de la police et des autorités administratives. Certains sont arrêtés tandis que d'autres se voient interdire la tenue de réunions. Des explications avec notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Les organisations de la société civile nourrissent des craintes depuis la période post-électorale, redoutant parfois la réduction de leur espace d'expression, un climat qui ne permet pas à certaines ONG de fonctionner normalement. C'est ce que décrit ici Rock Elojunzobo du Cercle pour les droits de l'homme et le développement.
Surtout depuis le référendum, depuis le changement de la Constitution, nous sommes en face d'une machine non seulement de répression mais aussi de musulmans. Le gouvernement veut faire taire la société civile avec notamment des interdictions des réunions, même des réunions dans les salles. Et on se retrouve en face des situations où les défenseurs des droits humains, surtout, sont menacés, arrêtés. Ça a commencé avec les syndicalistes de l'université qui ont été arrêtés, certains torturés. Ensuite, nous avons eu des interdictions des réunions, des séminaires. À Pointe-Noire.
Arrêté en début mai, alors que s'ouvrait à Brazzaville le procès du général Mokoko, le coordonnateur national du mouvement, le ras-le-bol Franck Dilamalembe, dit ne pas être diminué par son emprisonnement.
Si les autorités ont voulu que cette maison d'arrêt soit pour nous un lieu où on aurait peut-être abandonné notre combat, non, c'est tout le contraire. Tous les prisonniers étaient avec nous, tous les prisonniers nous ont encouragés à continuer notre combat parce que le combat reste le même, ce n'est pas un combat contre une personne, c'est un combat contre un système et le mouvement ras-le-bol continue et continuera à militer pour plus de justice sociale.
Enfin, 2017, une nouvelle loi visant le recadrage des activités des ONG est arrivée au Parlement. Fortuné Megzan Animba, président du Forum pour la gouvernance et les droits de l'homme, fait son analyse.
De ce que j'ai compris, c'est que les organisations de la société civile qui travaillent plutôt sur les questions de développement pensent que la loi de 1901 n'est plus adaptée aujourd'hui, mais les organisations qui travaillent dans le secteur des droits de l'homme, les organisations militantes, ont plutôt le sentiment avec raison que modifier cette loi peut restreindre la liberté d'association.
Les plaintes des ONG ne sont toujours pas comprises par certains juristes qui prêchent le respect de la législation. Trop de liberté tue la liberté, affirme le juriste Christian Bouanga.
Je pense que l'officier de police judiciaire qui procède aux arrestations connaît la loi. Donc une arrestation est une présomption, n'est-ce pas, de la commission par la personne qui en est l'objet d'une infraction. Il n'y a pas de discrédit a priori à jeter sur tout acte posé par l'autorité publique en République du Congo. Non, nous sommes dans un état organisé, il y a des lois que les gens respectent. Alors ceux qui pensent que le Congo est une poubelle, moi je les invite, n'est-ce pas, à prendre une autre nationalité.
Le Premier ministre Clément Mwamba a accepté d'ouvrir une discussion avec ces ONG, notamment dans le cadre du processus ITUE, où la contribution de la société civile est toujours très attendue. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet.
VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Aux États-Unis, les protestations continuent contre le traitement des migrants détenus pour être entrés illégalement dans le pays. Plus de 500 enfants ont été réunis avec leurs familles, mais 2000 autres restaient toujours séparés de leurs parents dimanche, malgré l'annonce du président Donald Trump cette semaine, affirmant vouloir mettre fin à la séparation des familles. Voici un reportage de Mike O'Sullivan, relaté par Blanche Sanou.
Devant un centre de détention de l'immigration en Californie, les manifestants défilent avec des pancartes pour exiger la libération des familles détenues.
C'est un grand désordre en ce moment, des familles séparées qui ne peuvent même pas se parler, entrer en contact, s'assurer que tout le monde se porte bien. Nous ne sommes même pas encore sûrs qu'ils puissent réunir toutes ces familles.
La question divise et le président Donald Trump a souligné vendredi à la Maison-Blanche que d'autres familles avaient été tuées par des immigrants illégaux.
Ce sont les familles que les médias ignorent. Ils n'en parlent pas.
Les manifestants estiment que les déclarations de Trump reflètent une tendance à blâmer les migrants pour les problèmes des États-Unis.
Qu'il s'agisse d'immigrants chinois, mexicains ou d'immigrants d'Amérique centrale, c'est toujours la même tendance à blâmer les autres.
Le sénateur Kamala Harris est parmi ceux qui élèvent la voix contre la politique migratoire de Trump.
C'est un combat né du fait de savoir qui nous sommes et de nous battre pour les idéaux de notre pays.
Le président a exigé une meilleure sécurité frontalière et un système d'immigration fondé sur le mérite. Les manifestants disent qu'il veut interdire l'entrée aux immigrants des pays en voie de développement.
Nous avons un système d'immigration défaillant. Ce n'est nouveau pour personne. C'est ce dont nous parlons depuis longtemps.
Selon l'un des manifestants, avec les élections au Congrès cette année, il faut s'attendre à de telles prises de position.
Nous avons besoin d'élus fiables au Congrès pour pouvoir élaborer une politique d'immigration raisonnable. Ces personnes devront écouter les experts qui sont sur le terrain.
Sur les 2000 enfants séparés de leurs parents, seulement 500 ont été réunis avec leur famille. On ignore quand ou comment les autres pourront retrouver leurs proches.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, le Top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur votre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique, et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 5h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, c'était Sims Loumami. À la console, Bill Andradek. À la présentation, Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité en continu. Très bonne soirée à tous. Dans une petite minute, les nouvelles.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wentanga. Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.